Il est 18h30 ici, à Paris. La Chine à l'honneur ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
La Chine, dont on entend peu parler étant le début de mandat de Donald Trump aux États-Unis, occupe toute l'actualité. Et pourtant, c'est bien Pékin qui est visé par le 47e président des États-Unis, dont l'un des leitmotivs est de tenir à distance la Chine. Et la guerre commerciale de Donald Trump est menée de tambour battant dans ce but-là. Illustration pas plus tard qu'hier lundi, les États-Unis imposant des droits de 25% aux pays qui achètent du pétrole du Venezuela. La Chine est directement visée. Elle est le premier client de l'or noir de Caracas. Aujourd'hui donc, Pékin proteste, mais Pékin ne désarme pas. Notre question ce soir, est-ce que la Chine peut être la grande gagnante du mandat de Donald Trump? Est-ce que la guerre commerciale finalement peut servir Pékin? Et puis face à un président américain qui s'affiche toujours plus autoritaire, est-ce que la Chine va gagner en légitimité aux yeux de l'étranger? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Jean-François Di Meglio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'Asia Centre et directeur de la publication de la revue semestrielle Asia Trends. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Marc Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du centre Asie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Et Stéphane Corcuff, notre troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au Centre d'études chinoises à la Bibliothèque nationale de Taïwan. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Jean-François Di Meglio, on va camper le décor. Quand Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche, à quoi ressemblaient les relations entre la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'on avait face à face deux pays ennemis?
On a en fait une tendance lourde qu'on manque très souvent lorsque on observe l'alternance démocrate-républicain. Il ne faut certainement pas caricaturer l'arrivée d'une administration républicaine ou l'administration Trump même, plus que républicaine, comme une adversaire résolue de la Chine, parce que la tendance lourde qui a éloigné les États-Unis et la Chine de l'espèce de fausse lune de miel dans laquelle on était depuis la mise en place de la Chine au sein de l'OMC, c'est fini. En fait, c'est sous le mandat d'Obama qu'on a opéré le pivot pacifique, que c'est sous le mandat d'Obama que, effectivement, la prise de conscience, on ne peut pas parler de fin de naïveté, mais en tout cas, prise de conscience de l'enjeu stratégique de l'océan Pacifique et des enjeux stratégiques pour les États-Unis de cette région a commencé. Alors oui, bien sûr, on a le style ensuite. On a le style Trump, on a eu le style Biden qui était différent, mais qui était quand même, d'une certaine façon, dans l'héritage Obama. Encore une fois, le changement de ton, le virage, il date d'il y a beaucoup plus longtemps que Trump.
Il n'y a pas un virage radical dans les relations États-Unis-Chine avec le début de mandat de Trump pour vous?
Dans les mots, il y a évidemment un virage radical.
Mais
si on observe, si on observe ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump, on a eu ces quasiment 4 ans de mandat pendant lesquels on a essayé d'obtenir dans le commerce international des concessions de la Chine. Et puis, vraiment à la veille du Covid, rappelez-vous, c'était à la veille du Covid que Liu He, en janvier 20, finalement, semble céder. Mais qu'est-ce qu'on a gagné depuis? On a gagné, en fait, l'excédent record de la Chine vis-à-vis du monde entier. C'est probablement ce que vous voulez dire quand vous dites la Chine grande gagnante de l'époque actuelle. 800 milliards de dollars d'excédent commercial et un excédent commercial qui est en fait toujours fait avec les États-Unis, même si le commerce, lui, s'est effectivement restreint. C'est-à-dire que les importations et les exportations, les flux entre les États-Unis et la Chine ont diminué par rapport à l'ère pré-Trump 1. En revanche, l'excédent commercial, qui est la cible prioritaire de Trump, eh bien lui, il a augmenté.
Ouais. Alors, Marc Julien, cet excédent commercial de la Chine, est-ce qu'il permet finalement à Pékin de se trouver en position de force face à la guerre commerciale menée par les États-Unis?
Non, je ne crois pas du tout. D'une part, parce que la Chine importe encore moins des États-Unis que lors du premier mandat de Donald Trump. Et donc, finalement, l'excédent commercial qu'elle a, c'est parce qu'elle exporte beaucoup vers les États-Unis. Mais donc, c'est aussi une plus grande vulnérabilité face aux, pour le moment, 20% de tarifs imposés par les États-Unis sur toutes les importations devenues de Chine. L'information que vous nous avez donnée en début d'émission là sur le Venezuela, enfin les tarifs que Trump imposerait aux clients du pétrole vénézuélien montre justement que la Chine est en ligne de mire. Vous avez aussi rappelé très justement que depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, finalement, on l'entend peu sur la Chine. Il est extrêmement tonitruant sur ses voisins, sur le Canada, le Mexique, le Groenland, sur l'Europe, et on a vu ce qu'il cherche à faire sur l'Ukraine et son potentiel retournement de veste vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais il parle peu de la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien, puisque j'ai mentionné déjà les 20%, enfin les deux vagues de 10% de tarifs qu'il a appliquées à la Chine. Il a renforcé également des mesures de contrôle d'exportation de technologies américaines vers la Chine. Et là, il met des mesures indirectes, en fait, pour attaquer la Chine et, en fait, sur les points faibles, c'est-à-dire que attaquer les exportations chinoises. C'est vraiment le talon d'Achille de l'économie chinoise qui repose aujourd'hui essentiellement, pour pas dire seulement, sur les exportations. Ensuite, attaquer les approvisionnements de pétrole, c'est là aussi la Chine a pas ou du moins très peu de pétrole, et donc c'est aussi attaquer justement la base de son industrie. Donc,
Et les
je
exportations, on le
pense,
rappelle, c'est le grand point fort de l'économie chinoise. C'est la première puissance
c'est
exportatrice
à la
du
fois
monde.
un point fort et une vulnérabilité, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près son seul relais de croissance, puisque avant
Au niveau intérieur, c'est compliqué.
elle avait un deuxième relais qui était un deuxième moteur économique qui était le secteur de l'immobilier qui est à l'arrêt depuis quelques années et qui ne va pas, même s'il se rétablit, en tout cas il ne va pas repartir. Et donc aujourd'hui la Chine repose sur les exportations et c'est pour ça qu'elle a une machine industrielle extrêmement puissante, c'est qu'elle a besoin de produire pour créer de la richesse, donc pour créer de la croissance économique et pour se maintenir à flot. Et c'est pour ça qu'on parle d'excédent d'exportation ou de surcapacité industrielle chinoise, parce que la Chine produit sans aucune considération de la demande et elle essaye à tout prix d'exporter ses excédents de production qui ne trouvent pas de demande sur le marché intérieur chinois.
C'est la fameuse surcapacité chinoise. Et effectivement, on en parlera peut-être, mais la Chine est vulnérable aujourd'hui. Vous avez évoqué la crise de l'immobilier, il y a la démographie aussi qui menace la Chine. Marc Julienne, vous avez fait écho effectivement aux 20% de droits de douane sur l'ensemble des produits chinois qui entrent aux États-Unis, qui ont été décidés par Donald Trump. Mais dès le lendemain, la Chine a réagi en visant des produits bien spécifiques, à savoir des produits agricoles qui sont issus de l'arrière-pays rural américain. Alors ça, c'est la Chine a visé pour faire mal à Trump, parce que ce sont des régions de l'arrière-pays rural américain qui ont particulièrement voté pour Donald Trump. C'est pour ça qu'on peut se poser la question de est-ce que la guerre commerciale, elle peut se retourner contre Donald Trump et se terminer à l'avantage de Pékin?
Alors, si la question m'est adressée, oui, je pense que de toute façon, la guerre commerciale n'est pas nécessairement une excellente idée pour l'économie américaine de manière générale, sans qu'elle vise la Chine ou qu'elle vise le reste du monde. Mais je laisserai
Est-ce que la Chine peut tirer son
qui
épingle du jeu
maîtrise.
avec cette guerre
Mais
commerciale? C'est ça la
non,
question.
non, non, j'en doute, parce qu'encore une fois, si Donald Trump fait mal à l'économie américaine, en tout cas, il fait aussi très mal à l'économie chinoise, encore une fois, qui repose et il attaque quand même une vulnérabilité importante de la Chine, qui n'a pas beaucoup de leviers, qui n'a pas beaucoup de cartes en main pour répondre, pour riposter à Donald Trump, puisqu'ils exportent beaucoup vers les États-Unis et donc ces exportations vont se faire beaucoup frapper par ces tarifs. En revanche, ils achètent peu aux Américains. Donc même s'ils mettent des tarifs, ils vont mettre des tarifs sur un stock d'importation qui reste, ma foi, très modeste.
Stéphane Gorcuff, alors je vois Jean-François Dumilly, vous voulez réagir, je vous donne la parole dans un instant, mais Stéphane Gorcuff, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que vous partagez l'avis de Marc Julienne sur le fait que finalement, la guerre commerciale peut plomber l'économie américaine, mais pas sûr qu'elle fasse les affaires de l'économie chinoise. Elle s'avère être davantage négative que positive pour l'économie de Pékin.
Alors, davantage négative ou davantage positive, je ne saurais dire. Ça,
parce
c'est
qu'il y a
certain.
l'histoire de la réciprocité, encore une fois, qui peut permettre à la Chine de tirer son épingle du jeu.
Oui, bien sûr. Bon, moi, je pense qu'une guerre commerciale, elle est lancée avec une conscience de la part de Trump que ça va avoir nécessairement un impact négatif aussi sur son économie à lui. Maintenant, on raisonne évidemment sur l'existant et les forces et les faiblesses actuelles de l'économie chinoise par rapport au commerce international et aux États-Unis. Mais il faut voir aussi ça de manière dynamique. Quels sont comment dirais-je, les nouveaux horizons du développement de l'économie chinoise et américaine, et qui vont peut-être faire apparaître bientôt ou dans quelques années cette guerre commerciale comme finalement une une petite anicroche dans les relations, un moment d'éruption des relations entre les deux, parce que ce qui se prépare, c'est véritablement une concurrence bien plus importante sur des sujets sur lesquels les deux pays sont en train de s'aligner vers une concurrence féroce pour l'avenir, c'est-à-dire la quatrième révolution industrielle et toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle sur lesquelles ces deux pays sont les leaders du monde aujourd'hui. Mais ce que je vois, moi, c'est que c'est ça qu'il y a là derrière. C'est-à-dire que ce qui me paraîtrait vraiment intéressant, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de le faire aujourd'hui de manière statistique, c'est d'évaluer comment cette guerre-là va impacter les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre dans leurs relations internationales respectives, d'ailleurs, hein, à développer ces secteurs en collaboration avec d'autres pays de ces chaînes de valeur qui sont liées à la Chine ou qui ne le sont pas. Et ce qu'on voit, c'est que les Américains ne sont pas forcément mal perçus dans le monde dans cette guerre commerciale parce qu'ils replacent quelque part le curseur sur leur intérêt national propre, ce qui n'est pas forcément mal vu ailleurs qu'en Europe, hein. Et il nous apprend aussi, Trump, que finalement, c'est pas non plus parce qu'il cesse d'être notre ami, notre soutien, notre financeur aussi pour la défense, qu'il devient notre ennemi et qu'il apprend un petit peu à tout le monde à replacer le curseur sur l'intérêt national et qu'en attendant, il est en train de préparer quelque chose d'autre, c'est-à-dire la nouvelle révolution industrielle.
Jean-François Dimilio, je relance encore une fois, je ne veux pas influencer qui que ce soit sur l'idée que la Chine serait gagnante dans la guerre commerciale, mais la Chine a des atouts, c'est indéniable. Alors par exemple, on évoquait la future guerre industrielle. Sur les 17 métaux qui sont reconnus comme stratégiques par Washington, la Chine a concentré plus de 50% de la production mondiale pour près de la moitié d'entre eux ces dernières années. Donc ce que je veux dire, c'est que la Chine, il y a la réciprocité, et il y a aussi ce que l'économie chinoise apporte à l'économie américaine, ce dont l'économie américaine ne peut pas se passer de l'économie chinoise. Et puis, pour Pékin, est-ce qu'il n'y a pas plus que pour les États-Unis d'autres horizons ? Il y a ces nouvelles routes de la soie qui sont développées par la Chine, qui concentrent aujourd'hui 150 pays. Est-ce que les États-Unis, en plus avec, et on va évoquer l'autoritarisme forcé de Donald Trump, qui est aussi le couple d'une partie du monde, est-ce que tout cela, ça donne pas plus de force à la Chine ?
Oui, alors il y a un certain nombre de choses dans ce que vous venez de dire. Vous venez de mentionner les routes de la soie. Pendant un assez long moment de notre conversation, on a fait comme s'il n'y avait que deux puissances en jeu, la Chine et les États-Unis. Mmh. Et quand on a parlé effectivement du mal que les sanctions américaines pouvaient faire aux exportations chinoises, on a oublié que les exportations chinoises, ce n'est pas uniquement les États-Unis. Mmh. Et on a oublié surtout que le principal partenaire commercial aujourd'hui pour la Chine, ça n'est plus les États-Unis, ça n'est plus l'Europe, c'est l'Asie du Sud-Est. J'entends par là qu'on additionne les importations les exportations quand on parle de partenaires commerciaux, alors que très souvent quand on parle des États-Unis ou quand on parle de l'Europe, par définition, on parle de pays qui importent massivement et qui importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Donc la Chine a déjà une carte, vous parliez des routes de la soie, de diversification en main dans ce jeu qui autrefois nous fascinait, un jeu à deux. C'est un jeu beaucoup plus complexe. La Chine a aussi un autre atout, on viendra probablement ensuite sur ce que vous avez mentionné, mais elle a un autre atout, c'est qu'elle a probablement une capacité soit d'anticipation, soit de résilience, de repli sur soi, très paradoxalement, alors que c'est effectivement la première nation exportatrice, parce qu'elle a un régime qui est capable de faire accepter, jusqu'à un certain point, à sa population, un certain durcissement des conditions. Ce n'est pas forcément le cas quand on est la nation la plus endettée du monde et que la croissance américaine se fait sur l'endettement. Il y a aussi une capacité en Chine qui est le fait que l'économie étant dirigée et que le déficit étant relativement restreint jusqu'ici, on peut aussi augmenter ce déficit et qu'on a une monnaie que l'on maîtrise. Donc il y a un certain nombre d'atouts. Alors en face de ces atouts, effectivement, il y a toutes les difficultés que la Chine traverse actuellement. Juste un mot sur les routes de la soie. Alors les routes de la soie, très honnêtement, ce n'est pas le plus gros succès de la Chine. On nous a annoncé, rappelez-vous, en 2013, 1 000 milliards de dollars d'investissement. On nous annonçait aussi probablement une participation des pays récipiendaires. Il y a beaucoup d'échecs dans la mise en place du projet des routes de la soie. On en parle beaucoup moins. On n'a plus entendu parler de forum de routes de la soie depuis un petit moment. Or, en 2017, en 2019, le monde entier se pressait pour acclamer le projet des routes de la soie. Donc là aussi, il y a des nuances à apporter.
Le plus grand bras de fer entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, il se situe, depuis le début de l'émission, on ne parle que de l'économie. Alors, évidemment, on a la première puissance économique mondiale contre la deuxième annoncée comme la future première puissance économique mondiale. Mais où est-ce que l'enjeu, il est aussi d'abord diplomatique, géopolitique,
absolument.
Écologique. Enfin,
absolument. Alors, effectivement, les trois sont très différents. Ça n'est pas la première fois que les États-Unis, qui, quoi qu'en dise Trump, ont une volonté hégémonique, sont confrontés à la montée en puissance d'un pays dont on dit qu'il va les supplanter.
Ouais.
Le Japon, c'était finalement il n'y a pas si longtemps, et la Russie, c'était dans les années 60. Il y a un économiste qui est basé à Pékin, qui est une personnalité très originale, qui s'appelle Michael Pettis, qui nous a rappelé tout ça récemment, et qui nous a montré d'une certaine façon comment ces deux supposées puissances montantes qui étaient destinées à supplanter les États-Unis ont finalement échoué. Elles ont échoué en particulier pour des éléments que Marc Julien a mentionnés, c'est-à-dire les surcapacités et l'idée que, d'une certaine façon, les arbres allaient monter au ciel. Et donc, on a déjà ce genre d'histoire. Donc, la confrontation, elle est géopolitique, comme elle l'a été avec la Russie et comme elle l'a été avec le Japon. Jusqu'à présent, les États-Unis ont gagné. Simplement, ceux qui avaient gagné, les États-Unis qui avaient gagné contre la Russie, l'Union soviétique en fait, et contre le Japon, ce n'est pas les mêmes États-Unis qu'aujourd'hui. Ce n'est pas les États-Unis qui sont facteurs d'incertitude dans le jeu ouais. international et qui sont facteurs de dissociation d'alliance, d'accélération de dissociation d'alliance, qui était au contraire la force des États-Unis contre l'URSS et la force des États-Unis contre le Japon.
Marc, Julienne, on a évoqué l'économie, on parle géopolitique, et la diplomatie, elle n'est jamais loin. Comment est-ce que la Chine voit le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Parce que Russie-Chine, c'est une alliance.
Alors, non, justement, non, il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie. D'une part, parce que la Chine s'y oppose, la Chine n'a pas d'alliance. Ils ont un partenariat stratégique. Voilà, il y a un rapprochement important. Mais c'est important parce qu'il y a plusieurs choses là qui ont été dites et je souscris complètement à ce qu'il vient de dire. Je voudrais vraiment appuyer sur ce qu'a dit Jean-François Dimiglio. Les nouvelles routes de la soie, plus personne n'en parle. Il n'y a pas 150 pays partis des nouvelles routes de la soie. Ce n'est pas vrai. Plus personne ne parle de la Chine comme première puissance mondiale avant la fin de la décennie. Donc il faut remettre. La Chine est vraiment dans une situation de crise économique structurelle. Je ne dis pas, je ne prétends pas et je n'annonce pas un désastre en Chine. En tout cas, elle est dans une situation qui est complexe, qui est difficile et surtout qui est structurelle, donc qui ne va pas pouvoir se résoudre en quelques mois ou en quelques années, et surtout qui ne pourra pas se résoudre en l'absence de réformes. Et pour le moment, on attendait encore des annonces au mois de mars pour des réformes ambitieuses. Il me semble que ces annonces ne sont pas arrivées, en tout cas elles sont beaucoup moins ambitieuses que ce que l'économie chinoise attend. Maintenant, sur la dimension politique et géopolitique, effectivement, c'est sans doute là que les choses se jouent, puisque aussi bien je pense que les États-Unis ont encore beaucoup d'atouts pour eux, une autonomie énergétique, une autonomie alimentaire, la puissance du dollar, même si Donald Trump, la politique qu'il conduit pourrait amener à vraiment une remise en cause justement de cette superpuissance économique américaine. Et ce que fait Donald Trump, notamment en suspendant US Aid, par exemple, donne un champ libre, ouvre un boulevard à d'autres puissances concurrentes, la Chine au premier rang, mais aussi la Russie, mais aussi l'Inde, qui pourront être beaucoup plus influents, notamment dans l'Asie du Sud-Est qui a été évoquée par Jean-François Dimiglio, où la Chine a une puissance économique et une asymétrie et crée des liens de dépendance extrêmement importants. Alors avec la Russie, je crois que Donald Trump peut-être surestime en fait ce qu'il peut obtenir de Vladimir Poutine. D'ailleurs, pour le moment, Zelensky a fait des concessions, mais on ne voit pas de concessions venir de Vladimir Poutine. Et je pense que l'intérêt entre Vladimir Poutine et Xi Jinping sont très clairs, sont importants. C'est cette opposition justement aux États-Unis. Certains pensent aujourd'hui, parlent d'une stratégie de reverse Nixon, de retourner de refaire un peu une alliance, une stratégie à la Kissinger-Nixon comme dans les années 70, où les États-Unis étaient allés voir la Chine de Mao à l'époque pour faire un rapprochement pour renforcer le containment de l'URSS. Aujourd'hui, la situation est très différente. À l'époque, la Chine et l'URSS ne se parlaient pas, n'avaient pas de relations. Aujourd'hui, elles ont des relations relativement étroites. Donc, je ne sais pas si la Chine pourra s'inquiète particulièrement de cette situation, d'autant plus que son asymétrie et son ascendance sur la Russie augmente là aussi de jour en jour, de mois en mois, sur le plan économique, sur le plan financier. La Russie ne peut pas se passer aujourd'hui de la Chine sur le plan économique.
C'est pour ça que j'évoquais ce rapprochement. Vous avez commencé à évoquer le processus de légitimisation de la Chine à la lumière du mandat de Donald Trump, de ce début de mandat. On va le détailler dans la deuxième partie du débat. La Chine peut-elle être la grande gagnante du mandat de Donald Trump alors que la guerre commerciale fait rage, et j'en parlais et on l'a évoqué hier lundi, les États-Unis qui imposent des droits de 25% aux pays achetant du pétrole du Venezuela, et la Chine est le premier client de ce pétrole vénézuélien, donc Pékin évidemment est directement visé, et Pékin proteste ce mardi. Mes trois invités sont Marc Julien, que l'on entendait, qui est directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, Jean-François Di Melio, président d'Asia Centre et directeur de la publication de la revue semestrielle Asia Trends, et Stéphane Corcuff, maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au Centre d'études chinoises, Bibliothèque nationale de Taïwan. Stéphane Corcuff, est-ce que la politique de Donald Trump peut l'isoler diplomatiquement et donc faire finalement les affaires de la Chine, légitimer la Chine qui a longtemps, qui est peut-être aux yeux de certains pays infréquentable, et ben finalement elle va être de plus en plus légitime face à l'autoritaire Donald Trump. C'est pour ça que j'évoquais notamment, c'est un bon exemple, par exemple, l'environnement. J'ai cité l'environnement, pourquoi ? Parce que les États-Unis ont quitté l'accord de Paris et la Chine est championne du monde des renouvelables. Certes, premier pollueur mondial, mais champion du monde des renouvelables.
Oui, bon, je ne suis pas certain, honnêtement, que le côté autoritaire de Donald Trump, sur lequel vous insistez beaucoup, donne envie à d'autres pays de se tourner vers la Chine, qui est un exemple parfait d'État autoritaire. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très important par ailleurs.
Là, par exemple, le ministre des Affaires étrangères français va être en Chine en fin de semaine. Et la Chine a dit vouloir, je cite, résister avec la France à l'unilatéralisme et à la résurgence de la loi de la jungle. On peut attendre peut-être un nouveau renforcement du partenariat Chine-France.
C'est là que je voulais en venir. C'est certainement pas, disons, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier Trump d'autoritariste. C'est plutôt qu'il a une façon de procéder qui est d'agir seul, au lieu de négocier avec ses alliés comme les précédents présidents. C'est plutôt là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, la Chine attire son épingle du jeu dans au moins une dimension, c'est clair, c'est qu'avec le côté un peu, disons, les revirements et l'inconstance de Donald Trump sur certains dossiers, on l'a vu évidemment sur l'Ukraine, on le voit aussi sur Taïwan, hein, son inconstance évidemment donne du grain à moudre au pays, et c'est le cas de la Chine, qui, derrière notre dos, entre guillemets, d'Européens, vont dire, vous voyez, l'Occident n'est pas fiable et les États-Unis ne le sont pas. On a un exemple très particulier à Taïwan aujourd'hui, où les promoteurs de l'unification qui polluent un peu le débat public à Taïwan sont en train d'inventer effectivement cette théorie de la non-fiabilité des États-Unis pour retourner l'opinion taïwanaise contre l'allié américain et finalement soutenir la réunification. On a là un paradigme qui pourrait être appliqué plus tard ailleurs dans le monde. Et ça, c'est véritablement dommageable. Et ça, la Chine le comprend très bien. Et ça, c'est beaucoup plus tangible et beaucoup plus utile que cette guerre commerciale qui, finalement, on a beaucoup de mal à savoir quel impact ça va avoir sur chacun des grands pays sur lesquels on va se poser la question. Je veux dire, chacun va prendre position en fonction de ses intérêts commerciaux, de ses exportations, de ses importations. C'est extrêmement difficile de le savoir. Mais on a quelque chose de concret qui est que les normes morales ou juridiques auxquelles on était habitué, les systèmes d'alliance, la coopération, les valeurs en général sont en train d'être malmenées par Trump, et ça c'est une étape nouvelle des relations internationales. Pour autant, je ne suis pas du tout sûr que cette nouvelle ère qui s'ouvre, que je qualifiais tout à l'heure un peu de, voilà, d'un égoïsme retrouvé, des nations qui vont peut-être cesser de coopérer sur des valeurs fondées, disons, refondées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, auquel on va s'habituer. Je ne suis pas du tout sûr que la Chine soit la mieux armée pour tirer son épingle du jeu, parce qu'il faut imaginer quand même que dans beaucoup de pays du monde, on se rend compte aussi qu'elle a énormément abusé des règles commerciales du monde depuis son arrivée à l'OMC, et que certains pays comprennent tout à fait la politique des États-Unis de rétorsion face à la Chine. Donc il ne faut pas imaginer qu'on voit dans le monde entier, comme nous on voit en Europe, les États-Unis, un ancien allié qui nous quitte en tant que financeur de notre défense, et un promoteur des règles internationales qu'on a fondées en 1945, et le reste du monde ne voit pas les choses forcément comme nous. Je crois que c'est important de le rappeler. Ouais. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je suis désolé de revenir avec ça, mais on parle de choses qui sont peut-être pas si importantes que ça, à côté de la préparation dans laquelle me semble être engagé Trump, et ça c'est un point fondamental, de la position des États-Unis sur la nouvelle révolution industrielle. Mmh. Économise, il fait des économies budgétaires, il redirige les investissements, il met des droits de douane qui permettent, en tout cas dans son... semble-t-il, hein, on n'est pas sûr de pouvoir décrypter ce qu'il veut faire, mais qui semble effectivement appeler à des réinvestissements aux États-Unis. Et s'il réussit son coup, on se rendra compte demain qu'on s'est dit aujourd'hui, finalement, qu'on s'était un petit peu trompé de bataille.
À voir aussi, Jean-François Dimilio, comment les relations entre les États-Unis et la Chine vont évoluer au cours de ce mandat. Ça fait seulement 2 mois qu'il a débuté le mandat de Donald Trump. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous? Est-ce qu'il va y avoir un deal entre Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois, concernant Taïwan? On n'a pas parlé de Taïwan, ou peu, pour le moment, comme il y a actuellement un deal annoncé entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Oui, alors je suis sûr que Stéphane Korkuff réagira avec son entrain habituel sur le deal taïwanais. Bon, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le président qui est en train d'essayer de négocier quelque chose pour un pays tiers, en l'occurrence l'Ukraine, avec la Russie. Il nous a annoncé qu'il réglerait le problème en 15 jours. Ouais. Il nous a annoncé maintenant un délai un peu plus long. Et puis aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce fameux deal qui devait aboutir à un cessez-le-feu aboutit simplement à une neutralisation de la mer Noire. Rappelez-vous le deal que Trump nous avait annoncé avec la Corée du Nord. Tout ça, ça s'est fini assez lamentablement par une fin de non-recevoir, une après-midi qui n'a jamais eu lieu finalement entre Kim Jong-un et Trump. Donc je pense qu'on a une manière de communiquer qui effectivement est extrêmement efficace, parce qu'elle fait passer des messages, il n'y a aucun doute, elle fait passer des messages.
Mais c'est d'abord de la communication.
Stéphane l'a mentionné, cette manière de communiquer fait passer des messages à l'Europe, fait passer des messages à Taïwan, mais pour autant, s'il y a un projet trumpien vis-à-vis de Taïwan, il n'a pas encore totalement pris forme, il ressemble certainement, s'il y en a un, à un deal, c'est-à-dire à un compromis où Trump essaierait de faire ce qui n'a pas réussi entre Deng Xiaoping et les autorités anglaises, ou en tout cas ce que les Anglais n'ont pas réussi à faire autour de Hong Kong. Rappelez-vous qu'un pays de système, c'était destiné à Taïwan autrefois. Ouais. Donc, on ne peut pas exclure qu'un jour, Trump débarque en nous disant « Rappelez-vous, un pays de système, c'était pour Taïwan. Alors, on va essayer de le faire. On va gentiment neutraliser Taïwan. Effectivement, ça n'est plus défendable. Et puis, on va quand même faire attention à ce que vous ne franchissiez pas un certain nombre de lignes rouges. » Eh bien, regardez ce que fait Poutine avec l'Ukraine. Ben non, il dit « Je veux la guerre jusqu'au bout. » Il est très possible que si on s'avance vers un deal, et encore, c'est une hypothèse, parce que Taïwan reste important, non seulement industriellement, mais aussi sur la carte de géographie, quand on voit l'arc des îles qu'il faut défendre. Je suis très prudent sur cette affaire sur Taïwan.
Entre Xi Jinping et Donald Trump concernant Taïwan, ce ne sera peut-être pas la même histoire que concernant la Russie. Merci beaucoup, on n'aura pas pu entendre Marc Julien sur ce sujet, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Jean-François Dimelio et Stéphane Korkuff, également notre troisième invité. La Chine peut-elle être la grande gagnante du mandat de Donald Trump? C'est loin d'être sûr, car la Chine aujourd'hui se trouve affaiblie. C'est ce que vous nous avez dit tous les trois. Merci beaucoup à vous trois.
Et merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat et Hélène Avril à la réalisation. Restez à l'écoute dans 30 secondes, c'est le grand débat.